Radio. Campus. Paris.
Une minute sur Radio Campus Paris, nous sommes le lundi 12 mai. Et bien à 18h, c'est toujours l'heure de la relève. Bonsoir, c'est l'heure de votre quinzomadaire radiophonique préféré, La Relève. C'est tous les 15 jours ou presque 30 minutes pour découvrir de nouveaux talents. Ce soir, on parlera de forêt et de littérature. Mon invité est écrivain. Mais avant de commencer, que feriez-vous si votre fiancé disparaissait en plein milieu de votre fête de fiançailles? Oui, je sais, il y a encore des gens qui se fiancent, ça existe. En tout cas, c'est ce qui arrive à Céline et à Luc qui doivent s'unir. Si les deux vivent à Dublin, en Irlande, c'est à Londres, devant leur famille, qu'ils ont décidé d'officialiser leur histoire. Si vous aimez la pop des années 80 et les Rita Mitsuko en particulier, vous savez sûrement que les histoires d'amour finissent mal en général. Mais il arrive aussi parfois, comme c'est le cas pour Céline et Luc, qu'une histoire d'amour ne commence pas vraiment mieux. Le roman dont je vous parle maintenant, puisqu'il s'agit d'un roman, raconte les jours qui séparent ces fiançailles particulières d'un mariage ou plutôt d'une catastrophe annoncée, en donnant successivement la parole et donc le point de vue des deux tourtereaux, du témoin, de la demoiselle d'honneur, mais aussi des invités, jusqu'au jour J qui possédera une happy end, même si ce n'est pas forcément celle qui était prévue. Ces changements successifs de point de vue expliquent pourquoi on n'arrive pas à se faire un avis définitif sur les différents personnages. Par exemple, au fil des pages, on oscille entre la tendresse pour la faiblesse de l'un ou l'agacement devant sa lâcheté. Et inversement, on admirera la persévérance d'une autre avant de s'agacer de son aveuglement. On oscille et on s'amuse car l'autrice Noyce Dolan, dont c'est le deuxième roman, possède un humour décapant et un sens de la formule redoutable. Mais il y a aussi chez elle quelque chose d'une Jane Austen des années 2020, qui observe un œil perçant les mœurs et les amours des jeunes de la classe moyenne supérieure irlando-londonienne, car on est dans ce roman plutôt pianiste, avocat ou cadre dans une start-up. Enfin, l'autrice réussit, et c'est pas le moindre de ses réussites, à créer un suspense qui ne concerne pas tant l'issue de cette histoire si mal partie, de se savoir comment les protagonistes trouveront un moyen de s'en échapper. Le roman s'appelle The Happy Couple, c'est signé donc Noyce Dolan, c'est parfaitement traduit par Nathalie Perroni, et c'est publié aux éditions de l'Olivier. Bonsoir Mathias Bonneau. Merci
Bonsoir.
D'être avec nous. On va parler de votre roman dans un instant et je me faisais, en lisant cette chronique, puisque je n'improvise pas bien sûr, la réflexion qu'on ne peut pas imaginer deux livres aussi éloignés que le vôtre et celui dont je viens de parler, celui de Noyce Dolan, mais on a une qualité tous les deux, c'est que je les ai beaucoup aimés. Alors pour commencer, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous raconter votre journée ?
Bien sûr. Je commence dès le réveil là ou ?
Bon, ce que vous voulez, je vais pas être indiscret. C'est juste pour qu'on imagine dans quel milieu vous êtes.
Bon, je vais aller vite sur le matin, qui n'était pas non plus le plus productif qui soit, mais ce matin j'ai bossé au bureau, j'ai un bilan sur les plantations que je fais dans mes forêts. Voilà, donc je faisais l'historique des différentes modalités que nous avions traversées. Tout ça, c'était dans mon bureau. Et cet après-midi, je suis allé dans les bois et puis on a commencé à marquer à la bombe les coupes, les arbres à abattre de la saison prochaine qui commencera en septembre.
Voilà, vous venez de publier Bûcheron, qui est votre premier roman aux éditions du Seuil. Vous aviez préalablement publié trois récits dessinés, Un hiver au bois, Une fois l'arbre à terre et Histoire d'un arbre. Pour commencer, je voulais vous demander pourquoi vous étiez passé des images pour ce récit-là, ou pour poser la question autrement, est-ce que vous aviez depuis très longtemps envie d'écrire un roman et vous avez attendu le bon moment ?
La seconde version est peut-être plus juste. Moi, j'ai toujours écrit et j'ai toujours dessiné et je pense que effectivement, c'est arrivé plus facilement de publier des livres illustrés que publier les écrits que j'avais. Donc j'ai presque plutôt l'impression que c'était l'inverse. Je suis passé par le dessin pour arriver à publier un livre écrit. Bon, je dis ça parce que je viens de le sortir maintenant, peut-être.
Mais pourquoi le dessin, c'était comme une étape ? C'est quelque chose sur quoi vous pouviez vous appuyer d'abord ? S'il y a une espèce de vertige avec que devant des mots ?
Non, je pense effectivement que c'était plus simple à transmettre, à montrer. Mais oui, il y avait une part de vertige. Enfin, publier un texte, c'est quand même un peu plus vertigineux, il y a un peu un truc comme ça. Mais voilà, les dessins, c'était plus facile à communiquer, à montrer. Il y avait des concours de carnet de voyage quand j'étais en architecture à Clermont-Ferrand. Et donc, ça s'est fait plus simplement avec les dessins qu'avec le texte. Mais encore une fois, c'est un peu étonnant parce que là, j'en sors juste, mais j'ai l'impression d'être plus à l'aise à l'écrit qu'avec le dessin. Il y a un côté laborieux que j'ai pas trop trouvé dans le texte.
Vous voulez dire que vous avez trouvé le texte moins laborieux à faire que le dessin? Ou le
J'ai l'impression
contraire?
que le texte écrit. Ouais, non, oui, c'est ça. Que l'écriture, moi, j'ai l'impression que l'écriture sort toute seule.
C'est rare, souvent les gens ont du mal à écrire, donc c'est intéressant. Vous, en tout cas, donc du coup, vous avez dit que vous avez beaucoup retravaillé après avec votre éditeur?
Avec mon éditrice, j'ai beaucoup retravaillé. Ouais.
Alors, ce livre raconte, donc Bûcheron, ça raconte votre histoire. Hein, si je vous ai demandé au début de raconter votre journée, c'est un petit peu pour nous mettre dans l'ambiance de cette forêt. Vous venez d'une famille de paysans et vous faites de bonnes études, hein, vous devenez architecte. Mais comme aurait dit Jack London, et même si vous n'êtes pas un loup, l'appel de la forêt était plus fort que tout pour vous. Là, c'est pareil, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez eu envie d'être bûcheron avant? C'est quelque chose que vous vous êtes interdit ou c'est le jour où vous avez dû travailler, que vous avez peut-être dû abandonner cet endroit et vous dire que vous n'y reviendrez plus, que ça vous a paru insupportable?
Non, je pense que effectivement, moi, je pense, je voulais être bûcheron depuis longtemps. Après, voilà, les rêves qu'on fait quand on est enfant, on ne sait pas trop quelle est la possibilité qu'il se réalise. Donc, mais c'est vrai que c'était marrant parce que pour l'exercice du livre, ben, je me suis forcé à retrouver tous ces petits souvenirs, les premiers abattages, les premiers arbres que j'ai vu tomber, les premiers gestes au bois que j'ai pu voir chez mon père, par exemple. Je me suis aperçu qu'ils m'avaient marqué beaucoup. Et en les mettant les uns à la suite des autres, c'est vrai que ça faisait quand même une grosse destinée à. Enfin, c'est pas si étonnant que ça que je sois retourné au bois à la fin de mes études d'architecture, en fait.
Mais vous étiez malheureux loin de votre forêt?
Non, parce que ce qui est vrai, c'est que je vois quand j'ai grandi, j'ai bien vu que la vie à la campagne, c'était quand même une rude affaire. Et j'ai vraiment voulu partir. Faire des voyages, rencontrer des gens, faire un métier qui ne demandait pas d'aller affronter la pluie un jour sur deux, ce genre de choses.
Oui, parce que là, vous êtes sédentaire, hein, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas partir, c'est difficile de partir. Est-ce qu'une
Oh,
forêt, c'est comme
en
une
vrai,
ferme, par exemple, où on doit s'occuper quotidiennement des animaux?
non, c'est un des gros avantages. Et c'est donc mon père, et vous l'avez dit, mes parents étaient agriculteurs. Ils avaient des brebis et très vite j'ai su que ça, c'était pas pour moi. Cette astreinte-là, je la supporterais pas. Mais voilà, les forêts, elles poussent tout le temps. Et si une année on n'y coupe pas du bois, elle va pas en souffrir. Donc
Alors,
elle peut attendre. Ouais.
avant de vous lire, moi j'avais en tête des livres qui parlent d'arbres. L'arbre en tant que tel est souvent même un peu fétichisé par des citadins. Mais vous, ce qui est particulier, c'est que c'est la forêt en tant que telle qui semble avec laquelle vous avez un lien très fort. Vous n'êtes pas tellement dans justement l'arbre à nous raconter les beaux arbres. Oui, c'est vraiment la forêt, c'est ce rassemblement d'arbres. Je ne sais pas comment appeler ça autrement.
Oui. Non, mais vous avez tout juste, et ça me fait plaisir que vous l'ayez vu parce que c'est effectivement, bon, j'aime bien un joli arbre, ça me fait toujours plaisir, mais je trouve que les interactions des arbres quand ils sont proches les uns des autres et tout ça, je trouve ça 1 000 fois plus passionnant qu'un individu isolé.
Mais vous pouvez nous parler de ces interactions? Parce que nous,
Bah
a
oui,
priori, nous, on est
je.
des citadins et on est écoutés par des citadins. Donc, je ne sais pas si les marronniers le long des grands boulevards ont des interactions entre eux.
Non, enfin oui, bah forcément. Après, moi, ce que je suis plutôt terre à terre, je suis pas scientifique, et en fait, je regarde juste comment les branches interagissent entre elles. Ce que je trouve fascinant, c'est les jeux de lumière qu'il peut y avoir. Comment, par exemple, dans les alignements platanes, si il en meurt un, ils vont, enfin, les services de la ville vont chercher à en planter un. Mais souvent, cet arbre-là, il faut qu'il ait accès à la lumière. Alors du coup, moi, la grande question, c'est savoir comment. Déjà, quelles essences ils mettent? Est-ce que l'essence qu'ils choisissent va tolérer plus la lumière pour arriver à se faufiler, tolérer un peu plus l'ombre pour arriver à se faufiler entre les houppiers de ceux qui les surplombent? Enfin, ce genre d'interaction-là, souvent autour de la lumière et voilà, souvent autour de la lumière. Et ça, je trouve ça fait des mouvements, je trouve. Comment les arbres se gèrent la lumière au fil des années, ça fait des mouvements qui sont invisibles. Enfin, qui sont très difficilement perceptibles, mais qui sont fascinants. C'est vraiment ça que je, moi, qui me fascine, quoi.
Alors, moi, ce que j'ai remarqué aussi en vous lisant, c'est qu'on est dans un monde très masculin, et pour tout vous dire, j'ai même été vérifié, le mot bûcheronne existe, mais il y a des femmes qui font ces métiers. C'est une question que je me suis posée en vous lisant.
Oui. Oui, il y en a, mais elles n'ont pas encore écrit de livre, alors.
Non, mais même les gens, même les gens avec qui vous travaillez essentiellement avec des bûcherons vous-même. C'est pas un reproche.
Mais non, mais
hein.
C'est sûr que c'est quand même très masculin comme métier. Après, et effectivement, des bûcherons, j'en ai croisé, mais j'ai jamais travaillé. Enfin, si, j'ai eu des stagiaires.
D'accord. Et donc, on dit bûcheron, hein, vous me confirmez?
Oui, on dit bûcheron.
Alors, c'est un métier très dur. Vous-même, vous n'employez pas le mot. Alors, je ne sais pas si c'est par pudeur ou parce que vous... Je ne suis pas médecin non plus, donc je ne vais pas faire un diagnostic à votre place. Mais vous avez quasiment vécu un burn-out, vous, à un moment. Il y a un moment dans votre livre où... Non ? On a l'impression qu'il y a un moment où vous n'en pouvez plus, que vous dites « j'entends mon cœur battre à grands coups, il ralentisse, le colère se dilue, s'évanouit cette frustration ».
Ah oui.
On a vraiment l'impression qu'il y a un moment où vous avez failli tout abandonner.
Oh, je...
Non.
Il y a un moment, effectivement,
non,
où
je
l'ai eu.
Moi, je ne suis pas psy, hein, donc c'est une impression.
Non, non, je sais pas ce que c'est un burn-out, effectivement. Enfin, je ne l'ai pas vécu. Mais bon, non, mais là, le moment auquel vous faites la référence, c'était un moment de colère où, effectivement, j'étais un peu... il y a la goutte d'eau qui fait tout déborder, et là, j'étais vraiment...
J'allais dire que
mais
vous étiez abattu,
de la colère.
Mais comme on parle d'arbre, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais...
Non, après il y a eu des moments, effectivement, ben, comme tous les métiers, il y a toujours des moments où ça devient dur, où on a envie de tout plaquer, mais comme dans tous les métiers, à partir du moment où ils sont, enfin voilà, ils sont exercés pendant plusieurs années, on rentre vraiment dedans. Mais ça, c'est pas propre au bûcheronnage, je pense.
Mais là, ce qui est propre au bûcheronnage tel que vous le racontez, en tout cas, c'est que peu à peu, il rentre en vous. Enfin, c'est ce que vous racontez, que votre corps, en fait, votre corps finalement s'adapte. S'adapte au métier, et ça vous le racontez très bien, je trouve, comment peu à peu, à force de faire des gestes, eh bien, le corps change, le corps devient lui-même, alors je ne sais pas si le corps devient outil de la forêt, mais presque.
Bah, non, mais ça c'est vrai, après tous les corps vieillissent, moi le mien c'est vrai qu'il a vieilli, il s'est déformé à l'effort que je lui demandais, donc c'est vrai qu'il est... Oui, c'est marrant. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que... Enfin, c'est ma kiné qui m'a dit « Mais t'as plus de ventre. Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est juste que... En fait, on n'a pas besoin... Dans le bûcheronnage, on n'a pas trop besoin de muscles de devant, mais surtout des épaules pour porter la tronçonneuse. Ouais. Et en fait, bah voilà. Donc elle m'a dit « Bah, si tu veux plus avoir mal au dos, fais du gainage, parce que sinon... Bah, t'étais déséquilibré, quoi. J'étais déséquilibré. »
Ouais, vous aviez vraiment... Le corps a changé. On en a un peu parlé, mais ce qu'on découvre aussi en vous lisant... Moi, je suis... Même si j'ai grandi à la campagne, je ne suis pas très bon en forêt. Et si on me demandait de couper un arbre, je pensais qu'on coupait comme ça. En fait, là aussi, vous vous racontez très bien comment il faut bien choisir la coupe, l'angle et tout ça. Et vous dites que le rapport du bûcheron le rapport du bûcheron à la forêt est quelque chose de très singulier, parce que vous êtes là pour aider en fait la forêt à grandir. Et qu'en gros, vous devez faire en permanence des coupes pour que les arbres les plus jeunes puissent grandir. Donc vous êtes là... pour l'aider à grandir tout en essayant de ne pas être là. Vous avez quelque chose de... Je crois qu'il y a quelque chose de très...
J'aime pas trop...
Pardon,
oui, je pense que je vois ce que vous voulez dire, mais j'aime pas trop dire que j'aide ou que j'entretiens la forêt, parce qu'en fait, elle n'a pas besoin de moi, enfin, elle n'a pas besoin de nous, humains. En fait, elle ferait sa vie sans nous, sans problème.
C'est pas grave.
Mais oui, elle n'a pas besoin de nous. En fait, c'est nous qui avons besoin de bois, et donc... L'idée, c'est ça, c'est d'aller de mettre en place un écosystème, donc d'entretenir une relation avec un écosystème vers une forme épanouie de lui-même qui veut bien de nous et de nos perturbations. C'est la phrase que j'ai trouvée dans le livre, enfin que j'ai dit dans le livre.
Et ça, c'est dur à trouver ?
La phrase ?
Non, de trouver aussi la phrase d'ailleurs. Oui, si, bien sûr, la phrase. Parce qu'on parle, on parle avec un écrivain, donc c'est aussi un travail d'écrivain que vous avez fait. Donc vous avez eu du mal à trouver cette phrase ?
La phrase, j'avoue que j'ai eu du mal. Elle est sortie, mais quand j'ai été sorti, j'étais content. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça que. C'est vraiment ça l'idée, qu'on tâtonne avec un écosystème qui a sa propre volonté, ses propres dynamiques. Nous, on a nos besoins de bois, principalement. Et du coup, ça fait une sorte d'échange. Et à deux, on essaie de créer un écosystème dans une forme particulière.
Oui, pardon, allez-y.
Non, et du coup, j'allais. Effectivement, c'est quelque chose qui est. Ça peut ressembler à une forme de dialogue, c'est-à-dire que nous, on va faire une coupe, comme une sorte de proposition vers une forme de forêt, puis l'écosystème va réagir, va évoluer. Il y a certains arbres qui peuvent apparaître, d'autres qui peuvent mal vivre cette coupe. Et du coup, ça fait une forme de réponse auquel nous, on doit s'adapter en fonction de ce qu'on voudrait, des essences qu'on souhaite. Et ça fait une sorte de dialogue. Et effectivement, je pense que c'est très long. Ça prend beaucoup de temps. On a une espèce d'idéal et cet idéal, le temps qu'on arrive à lui, aura changé. Donc ça fait une sorte de quête infinie.
Ouais, parce que vous avez essentiellement une forêt d'épicéas, c'est ça? C'est quoi la durée de vie d'un épicéa?
Question difficile.
Ah, pardon, je pensais pas
Non,
du
mais
tout vous
en fait,
poser un
dans les
piège.
écosystèmes, non, mais c'est juste
Non, parce que c'est
que
la
la
question que je
réponse, c'est
posais.
la réponse qui est compliquée. La question n'est pas difficile, mais c'est la réponse qui est compliquée. C'est juste que, en fait, des épicéas dans leurs écosystèmes naturels, ils peuvent vivre peut-être 400 ans facilement. Sauf qu'ici, en fait, on est dans le sud du Massif central, il fait quand même assez chaud, les épicéas poussent vite. Et ils sont exposés à des chaleurs qu'ils n'aiment pas beaucoup. Donc, en général, ils vont. Enfin, il y a très, très peu de chances qu'il y ait des épicéas de 400 ans dans la forêt du Passet.
Alors, tant pis, j'enchaîne. Et parce que je voulais revenir à votre rapport à la forêt, c'est donc vous avez dit on est là alors qu'on devrait peut-être pas l'être. Vous écrivez même à un moment que vous voulez faire des souches parfaites, c'est-à-dire que donc la souche c'est ce qui reste quand on a coupé l'arbre, qu'elle soit si basse qu'on ne les voit pas, comme si je n'étais pas venu. Chaque épicéa à abattre poursuit ma quête d'une souche idéale telle que celle laissée par les grands bûcherons. Il y a vraiment ce rêve quasiment d'être invisible, d'être là et de pas être là?
Ça dépend des types de sylviculture qu'on pratique, bien sûr, mais c'est vrai que dans la sylviculture que je vise, moi, la belle coupe est celle qu'on ne voit pas. On dirait que il y a quelque chose de magique, dans le sens où on va dans une forêt, on coupe du bois, on en prélève. Et si on a bien fait notre travail, on regarde la forêt, on a l'impression qu'on n'en a pas coupé. Or, on s'est pourtant servi en matière dont on a besoin. Et c'est vrai que ça, c'est un peu un fantasme. Ouais.
Mais ça, c'est un plaisir
Bien
pour.
sûr, ça.
Pardon, allez-y.
Oui, c'est un plaisir pour de bûcherons, oui. Mais c'est un plaisir de bûcherons, mais après, il y a peu de chances que ça arrive. Enfin, on laisse forcément des marques.
Mais vous aimeriez, voilà ma question c'était aussi, vous aimeriez vraiment qu'on ne vous voit pas? Qu'on ne puisse pas dire il est passé là, c'est dans une sorte d'idéal, c'est une sorte d'idéal d'avoir réussi de réussir ça?
Bah, quand je finis ma coupe et que je me retourne, et effectivement, j'ai envie de me dire ça, ou on me dit ça, ça me fait extrêmement plaisir, oui.
Bon, écoutez très bien. On va écouter un peu de musique et puis on vous retrouve dans 3 minutes, le temps d'écouter un peu de musique. Merci. Merci beaucoup
Très
Mathias
bien.
Bonneau. Je redonne le titre de votre livre, c'est Bûcheron et c'est aux éditions du Seuil. On se retrouve dans 3 minutes.
You got me feeling like I'm unignited. You got me feeling like I'm wasting time. You got me feeling like I'm unexcited.
Voilà, voilà, c'était Purcell, You Got Me Feeling. Et on est toujours avec Mathias Bonneau, auteur de Bûcheron aux éditions du Seuil. Quand on vit, bah, déjà vous avez une tronçonneuse qui fait beaucoup de bruit, mais est-ce qu'on écoute de la musique en forêt ou vous aimez le silence? J'imagine le silence plutôt.
Oui, moi je suis plutôt au silence ou même le bruit des outils, parce que le silence c'est vrai que c'est un peu.
Vous avez toujours peur adapté, la forêt, ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur en forêt. Pour vous, c'est un lieu amical?
Ah oui, je me sens super bien. Ouais.
Bah tant mieux, ça tombe bien en même temps.
Oui, tant mieux en même temps.
Mais vous êtes aussi au contact de la nature, et donc vous observez les changements, les effets pardon, du changement climatique. Vous pouvez nous en parler un peu dans votre forêt, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, oui. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai commencé mon travail forestier comme... en fait, il y a toujours eu ce truc-là. Donc, c'est difficile. J'ai jamais connu d'état stable forestier. Mais c'est vrai que je pense que ça va être le chantier central de notre génération de forestiers. Et ça se voit, chaque fois qu'on se croise entre forestiers, on se dit, bon, bah, alors ça meurt comment chez toi? On ne se dit pas, est-ce que ça meurt? On se dit, bon, t'en es où? De la mortalité, t'as tout ramassé. Et voilà, les arbres meurent petit à petit. Et donc, c'est pas jusqu'à quand.
Ça veut dire qu'il faut que vous apportiez de nouvelles essences d'arbres pour arriver à maintenir la forêt, par exemple?
Ben, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe, parce qu'effectivement, il faut planter, mais en fait, le but du jeu, à tout prix, en tout cas dans les sylviculture que je pratique, c'est de faire tenir ce qu'il y a debout le plus longtemps possible, malgré le fait que ça puisse mourir. Ce qui est une espèce de challenge qui est complètement vertigineux, où faut y croire à fond, te dire, bon, ben, ça peut tenir, tout en étant prêt à ce que qu'il y ait la moitié de la forêt qui soit crevée, quoi. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de faire tenir les arbres qui sont là le plus longtemps possible, tout en apportant effectivement une sorte de diversité derrière pour avoir une sorte de parachute.
Alors moi j'ai cru comprendre en vous lisant que le changement climatique avait quand même eu un effet que vous avez pu observer, c'est l'arrivée d'un prédateur, enfin je ne sais pas si on appelle ça un prédateur, le typographe.
Le typographe, oui.
Il vient parce que ça s'est réchauffé, et qu'il est... enfin, c'est ce que j'ai peut-être pas bien compris, pardon.
Non, si. Enfin, disons qu'il a toujours été là. C'est un prédateur naturel de l'épicéa. Mais effectivement, depuis plus il fait chaud longtemps, plus il prolifère. Mm-hmm. Vous aviez compris en fait. C'est le fait qu'il fasse chaud fait qu'il explose et qu'il pose de vrais problèmes. Mais si on n'avait pas planté des épicéas à ces latitudes ou dans ces milieux, peut-être il n'y en aurait pas. Il y aurait d'autres problèmes pour d'autres arbres, mais.
Ça ne vous a pas amusé en écrivant un livre de voir que votre ennemi était le typographe? Ça m'a beaucoup fait rire tout seul. Mais
oui.
C'est vraiment le même nom que l'ouvrier du livre traditionnel qui mettait en page le livre.
Oui, ça c'est... parce qu'il a, en fait, il fait les galeries de l'insecte font. Enfin, je crois que c'est ça l'explication. Les galeries de l'insecte font des dessins sous l'écorce du bois, qui sont des merveilles de finesse d'écriture, on dirait vraiment des écritures. Mais il y a plein de noms, il y a le typographe, le sténographe, il y a le calcographe, il y en a d'autres aussi.
très
toute
bien.
Une série de...
Vous-même...
Rangeurs d'arbres.
Oh pardon. Vous-même, vous êtes un lecteur d'ouvrages sur la forêt. Ce que j'avais envie de vous demander un peu, c'est est-ce que vous aviez, avant de vous lancer, lu d'autres auteurs qui vous aimiez? Oula.
J'avoue que je ne lis pas énormément.
Il n'y a rien à avouer.
Parce que le soir, quand je rentre, je suis un peu fatigué.
Oui.
Mais, j'essaie de... C'est souvent en plus les livres qu'on me colle entre les mains. On me dit, ah ça, lis-le, c'est bien. J'ai lu Dans la forêt très récemment.
C'est de qui, ça?
Pardon?
Vous savez de qui c'est? Non, c'est au cas où.
Jean England.
D'accord. Ah oui, c'est pas un
Je sais pas si c'est considéré comme un polar. C'est deux jeunes femmes qui sont abandonnées un peu dans la forêt. Enfin bon, mais donc oui, je lis pas mal sur la forêt. Le livre qui m'a, enfin les deux livres qui m'ont un peu guidé pendant l'écriture, et, c'était Le vieil homme et la mer. Donc ça parlait pas de forêt, mais ça parle un peu de rapport à la nature.
Ouais.
Le vieil homme et la mer d'Hemingway et un livre qui s'appelle La Syrie, qui est un livre anonyme.
Oui, parce que dans les deux
cas. Qui parle beaucoup du travail.
C'est plus ça que vous lui racontez, le travail que. Enfin, vous racontez autant le travail que la forêt d'ailleurs.
C'était. Oui, je crois que c'est. Ce que je voulais raconter, c'est. Je voulais vraiment faire comprendre la relation qu'il peut y avoir, la complexité de la relation qu'il peut y avoir dans ce travail de bûcheron. Quand on le développe au fil des années, quand on rentre dans des niveaux de complexité qui sont assez forts. Mmh. Et ça, je voulais pas raconter une belle histoire sur la forêt, je voulais vraiment qu'on comprenne la complexité qu'il peut y avoir à rentrer dans tout ça.
Ouais, vous racontez, je vous cite, hein, vous écrivez, ce mélange intime et profond entre la violence du fracas et la douceur de la précision fabrique une émotion incompréhensible et indomptable. Je n'arrive pas à décrire la jouissance à circuler entre des troncs, que ce soit en marchant, en abattant un arbre ou en le tirant hors de la forêt. C'était presque un pari d'arriver à partager ça avec des mots, avec les gens. Enfin, je veux dire un pari au sens théorique, quoi, pas un pari d'argent.
complètement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai des images dans la tête, et jusqu'à maintenant, en fait, j'ai réussi à les partager. Je n'arrivais à les partager qu'avec des bûcherons, et c'était des moments toujours assez forts en émotion, où on se mettait au coin du table avec un verre, et des fois, il y a des larmes qui viennent aux yeux de partager la force de ces émotions-là. Et avant de commencer le livre, j'avais aucune idée de savoir si c'était possible de le transmettre à quelqu'un d'autre.
Vous y arrivez formidablement bien. Et comme je vous l'ai écrit en privé, je peux le dire aussi ici à l'antenne, je pense que si vous étiez un auteur américain, tout le monde vous aurait déjà lu et vous louerez. Ceci dit, et pour finir, parce que je vois que l'heure avance, vous écrivez aussi à un moment, un peu plus loin, mais presque à la fin, « Mes plantations me donnent le prétexte de me balader, de comprendre, regarder, côtoyer, m'approprier, dans le fond et d'une certaine manière, faire partie. » C'est quasiment une expérience, quasiment une expérience métaphysique au sens fort du terme, d'être dans la forêt. Pour vous, en tout cas, vous avez à ce moment-là un contact, je vais employer les grands mots, avec le cosmos.
Je ne sais pas si j'irai aussi loin, mais.
Je suis toujours trop loin, ne vous inquiétez pas. Allez-y. C'est votre avis qui nous intéresse. Allez-y. Je plaisante.
Mais effectivement, il y a la forêt a une force, je trouve. Les dynamiques forestières peuvent porter une telle force qui dévaste tout. Et effectivement, d'arriver à se glisser, à jongler avec, il y a vraiment quelque chose de très impressionnant. Ouais.
Mais il n'y a jamais eu des moments où.
Par exemple, quand.
Pardon, allez-y, pardon.
Les images qui me fascinent, ça peut être des. Quand la forêt se met à se régénérer, on parle de régénération naturelle, ça fait des mers de semis, donc de jeunes arbres. Et qui vont faire une forêt, et ça, avant de pouvoir le détruire, c'est très compliqué. Et des fois, moi, avec mes petits plans, je vais venir me mettre au milieu. Et dans cette dynamique-là, par exemple, qui va être d'essence, par exemple, qui va être d'épicéa, cette vague d'épicéa, moi, je vais arriver à glisser quelques érables, quelques douglas, et je vais essayer de faire partie de ce phénomène-là. Et c'est extrêmement grisant, quoi.
En fait, vous jouez avec en permanence. Quelle est pour vous la plus belle saison, le plus beau moment pour aller à la forêt? Plutôt le matin, le soir? J'ai envie de dire pour un Parisien qui se promène, vous nous conseillez de venir quand voir votre forêt? L'automne, j'imagine.
Tout le temps, hein. Tout le temps, venez tout le temps.
On peut venir vous aider? Non, j'imagine qu'il faut quand même des gens qui ont diplômés, c'est quand même un métier dangereux.
On ne vient pas faire la forêt
comme on fait les vendanges.
Non, il n'y a pas trop de métiers comme ça, effectivement, et c'est surtout pour des histoires de.
D'assurance.
D'assurance. Ouais. Puis c'est compliqué, effectivement, les arbres. Faire tomber les arbres, c'est assez compliqué. Il y a des petites tâches qui sont. Les plantations, par exemple, ça va. Ça prend assez vite. Mais l'abattage, c'est un peu délicat, quand même.
Vous allez encore écrire.
Mais on fait des stages.
Non, pardon, allez-y.
On fait des stages, des fois, de découverte, disons, avec des gens qui ont souvent un petit peu essayé, qui ont déjà tenu une tronçonneuse. Et c'est assez intéressant, ouais.
Vous allez encore...
des choses.
Oh pardon. Décidément, j'arrête pas de vous couper. C'est difficile. Hein, on est à distance. je vous vois pas. Donc c'est. Et puis il y a un petit décalage, je crois, dans le son. Vous allez encore écrire sur la forêt ou vous avez tout dit là?
Je n'ai pas tout dit, non. C'est sûr. Après.
C'est comme une histoire d'amour. En fait, ça se termine jamais. Il y a toujours quelque chose à raconter.
C'était un peu la question que je me posais en me disant. Est-ce que c'est pas un dommage d'écrire ce livre maintenant? Est-ce que tu veux pas attendre la fin? Mais voilà, il y avait ce stade des 10 années où je me suis dit, ça vaut quand même le coup
de poser toute comment j'en suis arrivé là. Mais j'espère oui que je continue à pouvoir en parler, d'avoir des choses à dire.
Et est-ce que vous aimeriez écrire sur autre chose?
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc vous allez continuer à écrire, ça c'est sûr.
Oui, après là, c'est vrai que je suis un peu. Je viens de le finir, donc j'ai beaucoup de mal à me projeter, mais les fois où j'ai pu taper des textes, ça me fait toujours très plaisir, donc j'espère que oui. Mais je ne sais pas du tout sur quoi.
Eh bien,
j'ai l'impression que je ne sais pas faire autre chose.
Oh bah, c'est déjà pas mal. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je sais que si vous, ça vous fait plaisir d'écrire, eh bien, moi en tout cas, et je souhaite à tout le monde d'avoir le plaisir de vous lire. Mathias Bonneau, je redonne le titre de votre livre, c'est Bûcheron. Ça a paru aux éditions du Seuil, et c'est dans toutes les bonnes librairies, je crois qu'on dit ça dans ces cas-là, et même dans des endroits qui ne sont pas des librairies, normalement il ne faut pas aller, mais bon, si c'est pour acheter votre livre, on ne dira rien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'était La Relève, préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée ce soir par Delila. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris et toutes celles des saisons précédentes. La Relève, c'est dans 15 jours maintenant. Et puis à 19h, vous retrouvez la matinale de Radio Campus Paris. C'est à 19h, c'est la matinale. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. Voilà. J'ai dû le dire au moins 5 fois, ça va? Au revoir.